À l'EHESS, où les personnalités atypiques sont nombreuses, tu es sans doute l'une des plus connues, mais aussi l'une des plus énigmatiques. On te voit intervenir souvent dans le débat public, mais toujours en effectuant une sorte de pas de côté qui rend ta position difficile à identifier et à classer. La diversité de tes objets d'études fait contraste avec le profil du spécialiste qui défriche toute sa vie un seul et même lopin de terre. Toi, au contraire, on te voit passer d'une enquête ultra minutieuse sur les commencements de la psychiatrie en France au début du 19e siècle à une réflexion de très large amplitude sur les commencements des religions monothéistes, pour revenir ensuite à une étude sur la Révolution française, à des études sur la Révolution française, encore une fois très minutieuses, au jour le jour. Tout ça n'est pas habituel. Il faut ajouter à cette activité que tu animes depuis toujours des revues d'opinion, c'est-à-dire des revues qui font l'opinion, la plus connue d'entre elles, la plus durable, étant Le Débat, que tu animes sous la direction de Pierre Nora depuis 1980. Je crois qu'il n'est pas douteux que tu appartiens à cette espèce un peu bizarre que sont les intellectuels, qui est peut-être une spécialité assez française finalement, et dans cette espèce des intellectuels, à la sous-espèce, je puis dire, ou en tout cas à une branche, celle de ces intellectuels nés à la vie de l'esprit dans les années 60. C'est pourquoi je voudrais d'abord te poser une question un peu massive. Quel lien y a-t-il ou fais-tu entre ton parcours intellectuel et la génération d'où tu procèdes?
En effet, mon parcours est parfaitement générationnel. Je crois qu'il n'a, dans ce qu'il peut paraître singulier de l'extérieur, une explication très simple dès qu'on le ramène à son origine. Je laisse de côté l'aspect politique, bien qu'il soit là aussi tout à fait générationnel. Mais 68, c'est en gros, dans l'histoire des intellectuels français, le moment du détachement des intellectuels par rapport au surmoi communiste. Je m'inscris complètement, à ma façon, dans cette équation. Intellectuellement, les années 60, on l'a beaucoup oublié, finalement, derrière des étiquettes qui ne rendent pas compte de la vérité du phénomène, ont été, me semble-t-il, mus par le sentiment assez exaltant, quand on arrivait à la maturité intellectuelle dans ce contexte, d'un renouvellement profond des sciences de l'homme par leur unification. Au fond, c'était la grande promesse de ce qu'on appelle structuralisme, une expression qui ne veut plus rien dire si on la ramène à la méthode structurale. Le structuralisme, c'était la possibilité de dégager des structures valides non seulement pour l'analyse des sociétés, mais aussi pour celle des productions du sujet humain et de ce sujet lui-même, avec le grand dessein de faire converger linguistique, psychanalyse, analyse des sociétés, ne disons pas marxisme, parce qu'on était déjà très au-delà dans l'analyse de type structuraliste, pour créer véritablement une science unifiée de l'homme. Je crois m'inscrire totalement dans l'héritage de ce projet, auquel je dois peut-être être un des rares à avoir cru, mais le fait est que, au-delà de la mode intellectuelle, pour moi, il est resté le cap sur lequel je me dirige du mieux que je peux. Et c'est, je crois, aussi bien ce qui explique ces productions qui peuvent paraître hétérogènes de l'extérieur, tant dans leur mode d'exécution que dans leur inspiration, et qui, en fait, procèdent de toutes, d'une manière que je voudrais convergente, de l'essai pour élaborer des façons de cerner ce foyer commun vers lequel les sciences de l'homme continuent, à mon sens, de tendre. Alors, il faut évidemment dire, et c'est là où on entre dans une histoire qui est à la fois particulière, mais aussi celle de cette génération, que tout le contenu de ce projet tel qu'il se formulait dans les années 1960 a été complètement renouvelé. Parce que le structuralisme, au sens étroit, s'est révélé au total une impasse, que les aspects philosophiques qui accompagnaient cette grande idée, à mon sens, se sont révélés très critiquables, que la psychanalyse s'est révélée nécessaire à repenser, que l'analyse des sociétés a obligé à prendre en compte des dimensions sur lesquelles les structuralistes des années 60 étaient un peu courts, au premier chef le politique, mais aussi la religion, dont ils ne voulaient même plus parler. On parlait de mythologie à l'époque. La religion, ça n'existe pas. C'est une illusion du passé qu'on a précisément déconstruite. Il a fallu donc revisiter tout à fait autrement, en renouant d'ailleurs avec des traditions constituées tous ces objets, mais l'inspiration pour moi est demeurée la même.
Tu as commencé en fait, et c'est un peu surprenant, enfin pas surprenant, mais en tout cas on pourrait s'en étonner, par l'ethnologie. Tu dis quelque part que tu as lu tous les volumes de la collection Terre humaine, et ces premiers textes ont été republiés récemment dans ce qui est en fait ton dernier livre, sur lequel Sylvain Piron voulait te poser quelques questions.
Voilà, pour commencer à suivre le fil du parcours, et justement la façon dont tu as reconstruit ton propre projet sur les ruines du mirage structuraliste, en quelque sorte, c'est la question du politique et de l'État qui vient en premier à partir de deux foyers principaux, qui n'ont pas tout à fait la même valeur rétrospectivement, mais qui à l'époque occupaient une place considérable dans le débat. D'un côté, la question du totalitarisme, et de l'autre, la question du surgissement de l'État et vu au miroir des sociétés sans État, que Pierre Classe rappelait justement des sociétés contre l'État. Et c'est un peu pour penser simultanément ces deux problèmes que les premiers articles qu'on trouve maintenant réunis donc, au début de ce volume, de ce recueil paru en 2002, c'est cette question-là qui est posée, et avec une première tentative d'aborder une problématique générale de l'État dans sa très longue durée.
Par rapport au marxisme, dont le grand problème de l'époque était pas seulement de le critiquer, mais dans mon esprit, ça a toujours été de le dépasser. Critiquer pour ne rien mettre à la place, je ne vois pas l'intérêt. Quel type d'intelligibilité des sociétés peut-on proposer au-delà de l'économisme de style hegélien marxiste? Il y a deux cas de figure qui se présentaient immédiatement à la réflexion. Les sociétés antérieures à l'État, sur lesquelles, à l'évidence, le marxisme était fort court. De toute façon, on les connaissait à peine, et on a des notes ethnologiques de Marx qui montrent qu'il avait bien senti, parce qu'il avait l'intelligence du phénomène, qu'il se passait là quelque chose d'important pour lui, mais on n'en a rien tiré pendant très longtemps. Et ce qu'on a appris au XXe siècle, c'est quand même un des savoirs de l'homme fondamentaux, c'est le savoir ethnologique. C'était un des acquis cruciaux du XXe siècle, dont la leçon théorique est à tirer, à l'échelle des sociétés en général. Bon. D'autre part, le phénomène totalitaire. Limitons-nous, sans entrer dans le débat de la comparaison des différentes formes de totalitarisme, au plus intéressant pour le sujet, le totalitarisme communiste, qui se réclame du marxisme, mais d'une façon très intéressante, le marxisme est incapable de rendre compte. L'analyse marxiste du communisme stalinien, on a beaucoup essayé, je suis héritier direct de gens qui ont tenté cet exercice et qui ont eux-mêmes constaté que ça ne menait nulle part, qu'il fallait une autre grille d'analyse pour comprendre ce qui sortait du marxisme politiquement que le marxisme. Donc, de façon très naturelle, en fait, me semble-t-il, dans ce qui était le climat et la grande inquiétude intellectuelle de ces années, c'est les deux objets qui s'imposaient à la réflexion d'eux-mêmes.
Mais ce qui est plus original et qui est peut-être la vraie grande découverte qui après fait le fil de tous tes travaux, c'est de trouver la question de la religion en creusant cette question du politique. C'est ça, on peut dire, peut-être la matrice initiale de l'ensemble des travaux ultérieurs, qui apparaît très tôt, enfin, on le voit dans ces articles.
En effet, très tôt, je me suis aperçu, à ma grande surprise d'ailleurs, j'avais que des notions tout à fait superficielles et stupidement héritées, sociales, tradition laïque, venant d'un monde très religieux, traditionnel, et sorti de ça, le climat des années 60. La dernière idée qui me serait venue, c'est qu'un jour, quand j'avais 20 ans, je passerais par la grande partie de ma vie à réfléchir sur les religions et à essayer d'y comprendre quelque chose. Ça, je dois dire, c'est comme quoi. Parce que s'il y avait une chose dont le marxisme rendait encore plus mal compte que du politique, sur lequel on pouvait au moins discuter, c'est la religion. Là, alors là, c'était le blanc total. L'opium du peuple, on en a vite fait le tour. Ça n'explique pas grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui plus est, quand on se tourne vers ces sociétés très lointaines, très autres que les ethnologues nous ont appris à connaître, à comprendre, on ne peut pas manquer d'être frappé par la place décisive, organisatrice, reconnue d'ailleurs par tous les observateurs depuis les premiers contacts, que tient la religion. Mais alors, quelle religion ? Un type de religion complètement différent de celui auquel on est effectivement accoutumé. D'ailleurs, c'est bien les premières définitions qui vont être données par les Espagnols, par exemple, quand ils arrivent en Amérique latine, c'est des peuples sans roi, ni foi, ni loi. Alors, il n'y a pas de foi, mais il y a une croyance religieuse, des mythologies, des mythes, des rites qui occupent une place déterminante. De la même façon que l'absence d'État ne signifie pas l'absence de politique, l'absence de religion institutionnalisée avec une église, un clergé, des cérémonies, un dogme, ne signifie absolument pas absence de religion. Et c'est là où je suis devenu très vite très critique de, justement, ce que l'approche, la dissolution de l'objet religieux qui avait été la tentation structuraliste dans un discours mythologique sans frontières. En fait, bel et bien, il fallait reprendre ce terme de religion, mais le réélaborer complètement pour qu'il puisse absorber aussi bien, pour qu'ils puissent comprendre aussi bien ces religions très étrangères à notre idée de la religion que les grandes religions de salut mondial qui nous sont familières aujourd'hui. C'est en effet, en plus, un objet qui m'intéressait parce qu'il fait très directement ce lien qui m'intéresse entre le sujet humain et les formations sociales. Le religieux, c'est l'objet par excellence de ce point de vue, où on ne peut pas séparer l'étude d'une conviction partagée, donc toujours sociale. Il n'y a pas de religion privée, comme il n'y a pas de langage privé, il y a encore moins de religion privée. Il y a à l'intérieur d'une religion constituée des manières privées de s'y loger. Mais c'est un phénomène hautement social et c'est en même temps un phénomène où les implications personnelles sont déterminantes. Donc, à tous égards, il était fait pour m'intéresser, si je puis dire. Et il est en effet ce qui m'a guidé dans la reconstruction d'une intelligibilité alternative par rapport au marxisme, qui est mon ambition de départ.
1980, c'est à la fois la naissance du débat et c'est la parution de ton premier livre. Jusque-là, les textes que tu avais publiés, notamment La dette du sens, étaient dans des revues limitées à un public tout de même assez restreint. Et puis voilà que sort ce livre assez volumineux, La pratique de l'esprit humain, avec Gladys Swain, sur la naissance de la psychiatrie. Pour tout le monde, à ce moment-là, tu apparais comme l'antifoucaldien, puisque les thèses énoncées dans La pratique de l'esprit humain battent complètement en brèche la présentation faite par Foucault dans l'histoire de la folie.
Oui, précisons bien, antifoucaldien avec Foucault. parce que ce dont il s'agissait, c'est pas de revenir à un état de la question avant Foucault, qui d'ailleurs continuait d'être bien représenté. Mais en effet, ça faisait partie du travail de révision dont j'ai parlé. Dans le cas, c'est le versant sujet personnel qui est en cause. Comme tout le monde, j'ai été très marqué par la psychanalyse. C'est d'ailleurs autour de Freud que j'ai, ce qui n'était pas évident à l'époque, fait même mes premières armes. Mémoire de DEA de l'époque sur Freud, ça n'était pas un auteur considéré comme très canonique, et on avait un peu de peine à faire admettre ça. J'ai été extrêmement frappé par l'œuvre de Lacan. Je dis bien l'œuvre, ses écrits. Pas connu du tout, je n'ai pas suivi son enseignement, je n'en ai pas d'idée. Et en même temps, dans le fil des années 70, essentiellement, il faut le dire, grâce à ma rencontre qui est située au départ sur un plan purement privé avec Gladys Swain, qui se trouve était psychiatre et avec qui on partageait beaucoup de choses, personnellement et intellectuellement, ce qui m'est apparu, c'est que les impasses qui devenaient de plus en plus flagrantes du discours psychanalytique tenaient largement au déni d'inscription historique de la psychanalyse. On avait là un aréolite qui aurait été la seule révélation non divine, puisque là, il n'y a que l'inconscient derrière, qui nous serait venu dans l'histoire sans répondre à aucune racine, qui n'aurait pas d'antécédent, qui n'aurait pas de précédent, simplement une rencontre d'un médecin viennois, un peu singulier, il est vrai, avec son propre inconscient par l'intermédiaire de patients qui l'auraient fait réfléchir. Ça paraissait un conte de fées peu probable qu'on y réfléchissait un peu. Et dès y travaillant avec une psychiatre qui avait des lettres dans l'histoire de la psychiatrie par intérêt, ce qui se révélait très vite, c'est qu'on avait en fait, là où on avait installé une rupture totale et une remise en question complète du discours psychiatrique par rapport au discours psychanalytique, il y avait en fait une continuité, un terreau commun, un processus de dévoilement qui commençait bien en amont de la naissance de la psychanalyse. Il fallait inscrire la psychanalyse dans son époque et dans le fil rouge fourni en fait par la connaissance psychiatrique. Alors évidemment, à ce moment-là, on tombait sur Foucault, qui avait complètement retourné les esprits par ce livre éblouissant quand on le lisait dans les années 60, l'histoire de la folie. On m'avait paru emporter totalement la conviction, mais qui, dès qu'on le reprenait dans cette problématique, changeait complètement de sens et se révélait à la vérité un complet contresens. Au fond, Foucault était porté, sans trop le dire, parce qu'il n'aimait pas la psychanalyse, c'est bien connu, il a toujours été très prudent, mais on voit bien qu'il n'en pensait pas beaucoup de bien. Mais en fait, il s'était fortement inspiré de cette idée, la psychanalyse n'a rien à voir avec la psychiatrie, non seulement la psychanalyse n'a rien à voir avec la psychiatrie, mais elle condamne par son statut même et ses principes le connaissance psychiatrique. Il était parti de cette idée d'extraterritorialité, lui aussi, de la psychanalyse, et s'en était largement inspiré pour reconstruire une généalogie de la connaissance psychiatrique dans une très longue durée, depuis le XVIIe siècle, pour en faire, en fait, une entreprise de recouvrement de la vérité de la folie, comme il, selon ses propres termes, portée par une exclusion primordiale de la raison à l'égard de son autre, la déraison. Et au fond, dans son schéma, la psychanalyse apparaît comme une levée partielle de cette exclusion de la folie, mais très partielle. Je crois qu'il nous est apparu, en travaillant avec Gladys Swain, et je dois dire que, non sans étonnement, là aussi, parce que, a priori, moi je n'avais que révérence et admiration, d'ailleurs je garde totalement une admiration pour Foucault, qui nous a appris de toute façon à penser autrement, en effet. Mais il faut bien dire que tout le schéma de l'histoire de la folie se révélait intenable.
Une première brèche, d'ailleurs, avait été faite, en fait, par le livre de Gladys, qui était paru 2 ans auparavant, Le sujet de la folie, qui n'avait pas connu, d'ailleurs, un immense succès de librairie, je crois, mais enfin, qui avait quand même fait figure d'aérolithe, parce que, sur un point très précis, elle prenait en défaut tout de même la construction foucauldienne, et donc, au fond, elle ouvrait une première brèche dans laquelle, ensuite, vous alliez vous engouffrer et introduire ce gros livre.
Oui, d'ailleurs, sur le fond, par rapport au schéma foucauldien, l'essentiel est dit dans le sujet de la folie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec la naissance de la psychiatrie par rapport à l'amont et à l'aval, par rapport à ce que Foucault appelle l'exclusion classique de la folie et par rapport au statut de la connaissance psychiatrique en aval et de ses liens avec la théorie psychanalytique. En effet, les deux livres se tiennent, d'ailleurs, dans notre esprit, forment un ensemble. Moi, j'ai mis en particulier dans la pratique de l'esprit humain toute une analyse politique, parce qu'il y a un aspect, en effet, très politique dans la psychiatrie qui tient au type d'institution originale qu'elle a montée, très difficile à comprendre rétrospectivement. Qu'est-ce que c'est que l'asile ? Au-delà d'une image d'Épinal philanthropique, comme projet d'une institution qui guérit. Ce n'est pas banal, une institution qui guérit quand on y pense. Et je crois qu'en effet, il se passe quelque chose de très significatif, politiquement, sur un plan du modèle institutionnel à l'intérieur de la psychiatrie, et c'est plutôt ça que j'avais apporté dans la pratique de l'esprit humain, par rapport à cette remise en perspective de ce que, c'est le titre du livre de Gladys, Le sujet de la folie, nous apprend sur l'homme, dont la découverte de l'inconscient, un siècle après, est une amplification, un élargissement. Sans la révolution intellectuelle que représente la mise en œuvre d'une connaissance psychiatrique, pas de théorie psychanalytique possible. Pas de théorie psychanalytique dans un sens qui n'est pas forcément celui du langage de la théorie psychanalytique, mais le dévoilement d'une face inconnue du sujet. C'est qu'est-ce que la folie, pour le dire très grossièrement, une pathologie très énigmatique, on peut employer le mot de pathologie, il faut l'employer prudemment, mais il est bon, qui met en question non pas une fonction vitale, comme une autre, comme les maladies que nous connaissons, mais l'existence même du sujet. La possibilité pour l'être qui est frappé de se poser comme un sujet par rapport à son propre discours, par rapport à ses propres pensées. La perception classique de la folie, reconduite dans des mutations incessantes, fait de la folie précisément une abolition de l'humain dans l'homme. Le fou, c'est le sujet absent. Cette représentation de la folie est toujours d'ailleurs vivante de par le monde dans des cultures traditionnelles. On peut l'observer sans peine aujourd'hui encore.
C'est le mot aliénation.
Aliénation, devenir étranger à soi-même. On est vivant, mais en tant que sujet humain, on n'existe plus. Précisément, la découverte psychiatrique qui fonde la connaissance psychiatrique, c'est la découverte que jamais, en réalité, la destruction du sujet n'est accomplie. La remise en question peut être absolument radicale, aller très loin, donner cette impression d'une mort psychique. Mais c'est toujours une vue de surface. Car en réalité, le sujet mis en question ne disparaît jamais. Et précisément à ce moment-là, l'étude de la folie, ça devient l'étude des modalités de la mise en question du sujet intérieur, par lui-même, de l'intérieur de lui-même, et de des formes que ça revêt, des degrés que cela prend, des parcours existentiels dans lesquels cela s'inscrit, avec, et c'est en cela que l'enfermement psychiatrique n'en est pas tout à fait un, quels étaient les avatars de l'institution asilaire, avec la possibilité d'une prise sensée sur l'aliéné, d'une thérapeutique dans un sens qui ne signifie pas nécessairement la guérison. D'ailleurs, sur ce chapitre, on n'a pas nécessairement avancé de manière tout à fait décisive, mais certainement une manière de garder le lien humain, social, moyennant un travail considérable, très difficile, avec ceux qu'on appelait les aliénés.
Au risque de la chronologie, de rompre la chronologie, je crois qu'il faut dire un mot quand même des deux autres livres que tu as publiés autour de la question psychiatrique, en déplaçant cette fois le curseur chronologique à la fin du XIXe siècle. L'un, un petit livre en 1992, « L'inconscient cérébral », et puis quelques années après, un livre collectif intitulé « Le vrai Charcot ». Au fond, tu reprenais les choses, toujours dans l'idée d'une enquête très minutieuse et de détails très précises.
Les deux moments vraiment intéressants dans cette histoire, du point de vue de la fécondité inventive, c'est le moment 1800, les naissances de la psychiatrie, et le moment 1900, la découverte de l'inconscient. Donc, de façon assez logique, je me suis concentré sur ces deux moments. Juste un mot sur la méthode, si tu permets, parce que, en effet, j'alterne des travaux dont on me reproche le caractère trop englobant et des travaux dont on me reproche le caractère trop pointilliste.
Ça, c'est très bon si on te reproche l'un et l'autre.
Mais je crois qu'il y a très souvent le travail universitaire, le travail des historiens, le travail des philosophes, s'en tient à une sorte de niveau intermédiaire qui me paraît pas le bon. Il n'est pas assez précis et il n'est pas assez généralisant. Je crois qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne et simplement bien choisir les objets sur lesquels il est intéressant de consacrer une étude vraiment en profondeur, qui descend dans la manière dont les choses se sont passées. Vieux rêve des historiens, saisir les choses telles qu'elles se sont passées, mais qu'ils le respectent rarement, en fait, comme programme. Ils décrivent ce qui s'est passé, mais pas la façon dont les choses se sont passées. Ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment elles se sont, pour de bon, passées. Mais il faut aussi insérer ces épisodes très déterminés, auxquels, en plus, on a les sources, parce qu'ils ne se présentent pas toujours, pour consacrer une étude vraiment fine, dans des modèles plus englobants que ceux auxquels on a l'habitude de se tenir par une prudence qui me semble mal entendue. Car un modèle, ce n'est pas la vérité des choses parlant par elle-même, c'est tout simplement une construction intellectuelle à laquelle on peut opposer des arguments. Alors, la vertu d'un modèle, c'est d'être heuristique. S'il ne l'est pas, il est l'objet de critiques et disparaît. Mais c'est en fond, on sait très bien, tout de même, on ne le sait pas assez dans les sciences humaines, que c'est en fonction des hypothèses suscitées par des modèles qu'on peut conduire des enquêtes fécondes.
En 1985 est paru Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, qui est l'aboutissement des travaux dont on parlait tout à l'heure, d'interroger la religion depuis l'expérience première, donc ce que tu appelles la religion première des sociétés sans État, et qui est un livre qui renverse complètement le schéma habituel de l'histoire des religions, puisque au lieu de penser une progressive sophistication des religions. Le fil directeur ici, en suivant le parcours occidental, est de montrer la progressive sortie de l'emprise de cette religion première à travers différentes formes religieuses, la dernière étudiée étant celle du christianisme, décrit comme religion de la sortie de la religion. Donc c'est un livre qui est presque, disons, la moelle épinière de l'ensemble de tes travaux, sur lequel on peut s'arrêter un certain temps maintenant.
Alors, ce qui est plus étonnant encore, d'ailleurs, que ce renversement de l'histoire des religions, c'est le fait que la problématique de la sortie de la religion est en quelque sorte le pivot d'une analyse de la modernité politique. Et là, on change véritablement de plan. Et évidemment, ce livre, je me souviens de sa parution en 1985, il a secoué ceux qui, ils n'étaient pas nombreux, c'est vrai, mais ceux qui avaient l'habitude de s'interroger sur le statut de la religion dans les sociétés modernes. Alors bon, ce schéma qui met en scène ce renversement radical du principe de la souveraineté, le pouvoir descendait d'en haut, il sort désormais, il émane désormais du bas, de la volonté des citoyens. Avant, ce serait bien peut-être d'établir le lien entre ce qui a été dit précédemment sur les travaux concernant la psychiatrie et la psychanalyse et ce domaine de la religion. Comment s'est fait le passage d'une thématique à l'autre ?
D'une certaine manière, je n'ai cessé de mener en parallèle une réflexion et une exploration du côté psychique, disons, subjectif, et du côté social, politique, être ensemble, dans un langage plus abstrait, mais peut-être plus adéquat au total. Et la religion a cet aspect fascinant, qu'elle est un phénomène simultanément anthropologique, dans le sens mobilisation de la subjectivité et sociale. Avec une relation des deux faces saisissante. À des moments charnières, on le repère très très bien. Comment comprendre la réforme du XVIe siècle sans mesurer la mobilisation intense des subjectivités qui s'y opèrent en lien avec à la fois une révision sociologique et théologique de fond. Donc, de façon très privilégiée, en fait, je n'ai pas ou très peu publié de choses sur ce sujet, mais le désenchantement du monde, c'est une histoire politique de la religion, donc j'ai pris un côté, mais bien entendu, derrière et à côté, il y a une histoire anthropologique de la religion où le lien entre les phénomènes psychiques, les racines psychiques de la religion à côté des racines politiques, on m'a reproché de voir que le côté extérieur, mais c'est une description d'un aspect, je ne dis pas que c'est le seul. On peut écrire la même histoire sous l'angle d'une histoire anthropologique de la religion, et on sait bien qu'à beaucoup d'égards, les phénomènes psychiatriques et les phénomènes religieux s'accolent assez étroitement dans toute une série de phénomènes qui sont fascinants à observer, à étudier. Bon, il se trouve que, pour des tas de raisons, j'ai beaucoup enseigné là-dessus, j'ai très peu publié, parce que, tout simplement, je pense, je n'ai jamais eu l'impression d'aboutir à des idées absolument claires et absolument au point. Bon, ça viendra peut-être, mais dans mon esprit, ça ne s'est jamais séparé.
Alors, on peut en venir au fond, au contenu du désenchantement lui-même. On sait que ce livre a vraiment produit un choc parmi, au fond, les sociologues, anthropologues, historiens des religions qui étaient très familiers de ce paradigme de la perte religieuse du monde moderne. Alors, il me semble que ce serait intéressant, au fond, pour situer le projet intellectuel même du livre, de partir de cette distance qui existe entre l'approche, au fond, de la sortie de la religion, qui est le pivot d'une analyse de la modernité politique, ce qui distancie en quelque sorte cette approche des théories classiques de la sécularisation, qui bien entendu sont présentes aussi en arrière-fond et en instance de discussion par rapport à la thèse principale du livre, et d'éclairer ce qui est en jeu dans cette prise de distance par rapport aux théories classiques de la sécularisation. Je t'ai même entendu dire que tu n'aimais pas le mot sécularisation, que tu l'employais le moins possible.
Il y a une capacité descriptive qui fait qu'on l'utilise tous, parce que il est très pratique. Je crois qu'il trompe beaucoup, comme d'ailleurs cette idée de perte de la religion. Moi, je disais, de manière générale, là où il y a disparition, il y a apparition, et d'une manière, il faut penser transformation. Ce qu'on peut reprocher à la thèse de la sécularisation, elle enregistre un fait, une série de faits obvis, me semble-t-il, qu'on peut raffiner dans la description, mais ce n'est pas du tout sa pertinence descriptive que je mets en question. C'est sa capacité compréhensive. Quand on dit sécularisation, on ne parle pas de ce qui vient dans le creux laissé par la sécularisation. Or, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et il me semble qu'il y a un lien direct entre le retrait de l'emprise du religieux et l'émergence du monde dit séculier, mais qui n'est pas simplement séculier. Il est issu de la transformation du monde qui était structuré par la religion. Le point de départ essentiel est là, je crois, les idées modernes sur la religion que nous projetons sur les sociétés du passé, ethnocentriquement, mais c'est normal, le point de départ, c'est toujours l'ethnocentrisme. La démarche des sciences sociales ou humaines, c'est la critique de l'ethnocentrisme. La critique de l'ethnocentrisme, dans le cas, c'est le refus moderne d'attribuer un rôle organisateur à la religion, à les sociétés anciennes. La religion, ce ne sont pas simplement des croyances religieuses. Cela a été une économie totale du monde humain social. Et on peut parler d'une histoire, à mes yeux, l'histoire des religions, c'est l'histoire de la structuration religieuse du monde humain social. Ce qui veut dire que quand il se produit ce phénomène prodigieux, incroyable d'une certaine manière, qu'est la perte de l'emprise du religieux sur l'organisation des sociétés dans le monde dit moderne à partir du XVIe siècle, on peut discuter de la périodisation, mais celle classique, somme toute, garde sa pertinence. Ce qui se passe, ça n'est pas simplement une disparition de la référence du religieux, c'est une réorganisation du monde hors de la religion, mais qui métabolise des fonctions qui passaient par la religion et qui se trouvent revêtir une teneur complètement inédite dans leur forme à partir de la structuration religieuse qui fait place à un autre mode de structuration des sociétés humaines. Ce pourquoi il faut, à mes yeux, partir de là. La religion, ce n'est pas l'émergence d'un monde. Comment dire, la modernité, pardon, ce n'est pas un monde en dehors de la religion. C'est un monde qui se structure à partir de la religion par retournement d'un ensemble de structures politiques, sociales, de toutes les formes des liens entre les êtres et des modes de pensée qui étaient structuré par la religion. Donc je crois que la sécularisation donne en fait une image beaucoup trop étroite d'un processus dont la portée structurelle est beaucoup plus grande.
Reste que dès qu'on rentre dans la description empirique ou historique de ce retournement, ce qui d'ailleurs va apparaître dans des livres ultérieurs comme La religion dans la démocratie, on mesure à quel point la description, néanmoins, souligne l'expulsion de ce qu'on peut appeler les grandes religions historiques de la scène, de la scène humaine globale, donc recomposée à partir donc, de la religion. Dans quelle mesure l'approche qui a été mise en avant là n'est pas particulièrement pertinente pour, au fond, la mise en scène du face-à-face entre l'Église, enfin centralement l'Église romaine, et l'État, et particulièrement l'État tel que nous pouvons connaître l'État, disons, dans les sociétés européennes. Ma question, c'est, est-ce que ce modèle-là, on peut le faire fonctionner jusqu'au bout, s'agissant par exemple de sociétés, qui sont des sociétés démocratiques modernes, mais dans lesquelles la religion institutionnelle continue de garder une place extrêmement importante? Je pense par exemple au modèle américain.
Le modèle américain est un modèle en soi qu'il faut étudier pour lui-même et qui, bien entendu, ne répond pas au même schéma de devenir que nous pouvons appliquer avec des variations nationales qui sont considérables dans l'ère européenne. Comment dire ? Mais en même temps, l'idée générale me semble la bonne. Comment dire ? La société américaine est une société sortie de la religion où les individus continuent très majoritairement de croire en Dieu avec des effets sociaux considérables. Mais on ne peut pas dire que c'est leur foi religieuse qui organise leur société politique, économique ou leur vie intellectuelle, même si elle comporte des aspects qui le lient bien davantage aux religieux. C'est, on, un président américain, le président actuel, il faut dire, offrant la matière, une vérification particulièrement ample, peut bien se référer aux inspirations directes qu'il reçoit de Dieu, dans le cas de l'actuel président. Ça ne veut pas dire que la politique américaine n'est pas séculière de part en part. Et ça, le mode de raisonnement qui préside à ces décisions, bien qu'inspirées de Dieu, me semble furieusement profane, néanmoins. Donc, y a pas... Mais on est, en effet, dans un cas très intéressant où le... Parce que... Tout simplement, la société américaine n'est pas structurée au départ par le religieux sur le mode dont l'héritage de l'Ancien Régime, comme on le dit un peu superficiellement, se présente dans les sociétés européennes aussi. Donc toutes les luttes entre religion et liberté qui sont organisatrices pour la définition de la démocratie à l'européenne, avec des nuances là aussi, ne se retrouve pas du tout aux États-Unis, ou au contraire, on a la fondation d'une communauté politique sur la base de la recherche d'une liberté religieuse.
Et où finalement la religion elle-même conduit à l'autonomie.
Mais oui,
voilà. Ce qui évidemment n'est pas le cas européen.
Ça veut dire que la religion se présente sous des modes très différents, dans, à la fois institutionnellement et du point de vue de son inscription dans la société globale, mais cela ne veut pas dire que la société américaine est étrangère au phénomène de sortie de la religion dans un sens élargi. Je pense que, par exemple, une partie du grand ébranlement contemporain du christianisme américain dans sa diversité de sectes ou de confessions ou de dénominations relève bel et bien d'un travail de sortie du religieux qui continue, qui prend des aspects surprenants pour nous d'effervescence du religieux, mais qui se manifeste, par exemple, par une très puissante individualisation des convictions des individus par rapport à quelques cadres, même fournis par une secte, même fournis par une dénomination particulière, qui relève bel et bien d'un processus de sortie de la religion qui se continue aussi dans ce cadre.
Le minimalisme théologique des mouvements évangéliques pourrait, de ce point de vue-là, constituer un indicateur de cette sortie de la religion paradoxale.
Oui, je le crois.
Tu penses que la notion de sujet n'est possible qu'en lien avec la sortie de la religion. Aujourd'hui, la question se pose, pas simplement aux États-Unis, comment on va penser aux convictions, aux croyances personnelles, mais quand il s'agit de la construction du sujet pieux dans les sociétés déjà sorties de la religion. Je pense que, est-ce qu'on peut penser à la notion du sujet dans son rapport à la religiosité? C'est une question. Je pense effectivement à l'islam. Aujourd'hui, les musulmans d'Europe qui sont dans une société déjà sortie de la religion, mais en même temps, ils sont en train de se construire comme sujet, même une certaine idée de réforme de soi, je dirais, ou une discipline de soi, tout en se nourrissant de l'idée de la religion. Mais, comme tu dis dans beaucoup de passages, ce n'est pas pourtant un retour de religieux. Donc, il y a quelque chose d'ordre de sujet, de l'émergence du sujet, de la subjectivité, mais est-ce qu'on va l'analyser comme un anti-sujet, anti-moderne, ou au contraire, peut-être, comme tu dis, par rapport au moment de crise, par exemple, un élargissement, un approfondissement même, peut-être, de la notion du sujet moderne qui passe par ce moment de repli ou de réinvention de religieux. Ça, c'est une première question. Une deuxième, c'est, je pense que justement ce qui fait la richesse de ton travail, la différence de la sécularisation, de la thèse de la sécularisation, c'est de mettre en relation l'idée de la laïcité avec la chrétienté. Donc montrer la conversation entre les deux. Et aujourd'hui, est-ce que encore en Europe, on ne va pas dire qu'il y a justement un renouveau de l'intérêt pour la laïcité, on commence à débattre la laïcité, mais cette fois-ci, c'est par rapport à l'islam. Donc, ce n'est pas en montant dans l'histoire, dans le temps, qu'on peut reconstruire l'idée de la laïcité, mais c'est dans cette conversation interculturelle. Est-ce qu'on va dire que non seulement les musulmans qui se trouvent dans des sociétés sorties de la religion transforment leur soi à soi, mais en même temps, c'est la laïcité de la chrétienté qui est en train de... La laïcité dans la terre, je veux dire, européenne, qui est en train d'être transformée dans sa conversation avec l'islam.
Je crois que dans les deux cas, nous sommes en train de sortir de la naïveté ou de l'entre-soi, justement, parce qu'il nous faut penser à l'épreuve du contact proche avec des traditions spirituelles ou civilisationnelles qui ne nous étaient pas familières, ce qui nous oblige d'ailleurs, à mon avis, à revoir complètement notre passé, dont nous n'avions qu'une notion très approximative. La sortie de la religion se traduit de façon très remarquable, et dans l'histoire européenne, je pense qu'on en a d'abondantes illustrations, par une activation du religieux. Ça n'est pas l'opposition binaire. Être dedans, être dehors, comme si l'arrivée dans un monde moderne sorti de la religion voulait dire, pour des gens qui arrivent d'une autre tradition spirituelle, la destruction de leurs convictions d'origine. Ça ne se passe jamais comme ça. Pour rejoindre la modernité sortie de la religion, ils empruntent un chemin qui vient de leur propre tradition, de leur propre identité. Et avec lui, ils se fabriquent une nouvelle identité personnelle qui les mobilise en effet comme sujet sur un mode qui n'était pas impliqué spontanément dans leur tradition spirituelle d'origine, à laquelle ils ne renonceront pas. Et probablement, en effet, c'est une définition du sujet sensiblement différente dans son identité fine de celle à laquelle on était habitué, qui sera le résultat. De la même manière, d'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune antinomie, et là-dessus, avec Daniel, je crois que depuis le début, on s'est senti tout à fait d'accord, entre la croyance religieuse et la modernité sortie de la religion. Ce n'est pas du même ordre de phénomène. On voulait absolument rabattre l'un sur l'autre et tirer argument de l'un contre l'autre. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. On peut très bien imaginer, dans une certaine mesure, le cas américain nous en offre un exemple, mais à l'intérieur de l'Europe, des sociétés qui connaîtraient un grand regain de convictions religieuses de tous ordres, et qui resteraient des sociétés sorties de la religion. Il n'y a aucune incompatibilité. Un retour des croyances religieuses qui peut se produire, on n'en sait strictement rien, ne signifierait pas un retour de la religion, c'est-à-dire de l'organisation religieuse du monde. Et bien évidemment que les identités religieuses, très vives, à beaucoup d'égards, ce que n'importe quel prêtre de paroisse pourra vous dire pour se consoler à l'occasion, c'est que, certes, il y a beaucoup moins de croyants, mais au moins ceux qui sont là, ils croient vraiment. C'est-à-dire un type, à l'intérieur même du christianisme paroissial, du catholicisme de nos villes et de nos campagnes, on voit bien. En fait, la subjectivité religieuse qui est aujourd'hui mobilisée chez les croyants, chrétiens, bien de chez nous, est très différente de celle qu'elle était dans le catholicisme traditionnel il y a quelques décennies.
Et qui est même intégrée par les institutions religieuses elles-mêmes, dans ce sens qu'elles mettent elles aussi l'authenticité du croyant en avant par rapport à la conformité aux vérités à croire, par exemple. Donc elles ont, en un sens, elles-mêmes se transforment, les institutions elles-mêmes se transforment en lien avec tout le mouvement.
Tout à fait d'accord. Et là, il y a un véritable élargissement du regard, parce que ce qu'on tenait pour antinomique doit être articulé. Ça change beaucoup le paysage du problème. Alors, la question de la laïcité et du même ordre, au fond, quelle est la grande difficulté des Européens, des Français tout particulièrement, avec l'islam, pour penser laïcité ? C'est que pour nous, la laïcité, c'est un dialogue d'institution à institution. Vous avez une église, nous avons un État, on négocie, c'est un problème de partage des tâches et de répartition des rôles. Dans le cas de l'islam, n'y a pas d'institution avec laquelle négocier. Alors, perplexité profonde, on ne peut pas passer un concordat avec chaque croyant en particulier. On essaye donc, conformément à notre modèle, de fabriquer une église musulmane. Ils pourraient au moins tous se regrouper dans une, avec une autorité spirituelle avec laquelle on pourrait passer des accords. C'est pour ça qu'il y a cette question, cette fausse question, d'une certaine manière, de la séparation du politique et du religieux est source de telle confusion. C'est qu'il n'y a pas l'institution à partir de laquelle on pourrait prononcer institutionnellement la séparation. Dans l'islam, la séparation du politique et du religieux, on peut dire, est à la disposition de chaque croyant. Il n'y a que là où ça peut vraiment se vérifier, parce qu'on pourra signer tous les accords qu'on veut avec toutes les institutions plus ou moins artificielles qu'on pourra monter, ça ne changera rien. Mais ça pose un problème d'autant plus intéressant que ça tombe en fait en plein dans une crise de la laïcité traditionnelle où précisément on avait une église institutionnelle qui contrôlait ses ouailles et avec laquelle on avait un rapport de force très facile à négocier parce qu'on savait où chacun était. C'est plus comme ça que ça se passe non plus. L'emprise des églises chrétiennes sur leurs croyants, plutôt de l'ordre du souvenir nostalgique que d'une réalité sociologique certifiée. Je parle sous le contrôle de quelqu'un comme Daniel qui le vérifie beaucoup plus empiriquement que moi tous les jours. Et où, en revanche, la préoccupation des croyants catholiques les plus traditionnels d'être reconnus dans leur foi, dans leur insertion dans la vie publique, est d'une vivacité sans commune mesure, là aussi, avec le passé. La plupart des croyants de toutes les religions, et je dirais de ce point de vue, il n'y a pas de spécificité, ne s'accommodent plus de cette espèce de partage idéal entre une sphère privée où l'on garde ses croyances pour soi, une sphère publique pure, en quelque sorte, où ne s'affronteraient que des esprits déliés de leurs identités particulières, religieuses ou autres. De ce point de vue, l'arrivée de l'islam met en évidence un phénomène qui est interne à nos sociétés, qui est un changement profond du mode de relation de ce que signifie la religion pour les individus et de ce qu'elle peut signifier collectivement avec l'autorité politique. Il faut à la fois souligner la spécificité du problème posé par l'islam, et il faut en même temps noter sa consonance avec un problème général qui est posé dans nos sociétés, qui déplace complètement les repères de la laïcité traditionnelle.
La sortie de la religion, je crois que ce point a été très clairement mis en évidence, c'est la fin de la puissance organisatrice, englobante, compacte du religieux dans la vie sociale, et dans la vie politique et dans la vie culturelle. Enfin, c'est cette désorganisation religieuse du monde. Le point qui me paraît très important, c'est que cet affaissement de la domination sociale et politique du religieux ne signifie pas pour autant une sorte de triomphe de l'idéal d'autonomie, et qu'en un sens, il pourrait bien aussi se payer cet affaissement de l'évidement de l'idéal d'autonomie, privé en quelque sorte de ce contre quoi il s'est constitué. Il s'est constitué cet idéal d'autonomie pour justement échapper à l'emprise totalisante du religieux. Cette emprise, maintenant, tout le monde a acquis, intégré l'idée qu'elle n'a plus cours, et même les religieux, je dirais, dans nos sociétés, l'ont intégré. Alors, comment est-ce que l'idéal d'autonomie subit en quelque sorte les effets de son propre triomphe? Et est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu politique d'une extrême gravité qui donne peut-être cette tonalité pessimiste qui a été parfois soulignée à propos du livre « La religion dans la démocratie » où on a le sentiment que le processus atteint un peu un point limite, en ce sens que l'affirmation des identités singulières, cette démocratie des identités où chacun, où tous les enjeux du collectif transitent par les expressions et les intérêts individuels, dissout la possibilité, au fond, de penser collectivement le bien commun.
C'est vrai qu'il y a eu un âge d'or du politique. L'âge d'or du politique, c'est quand il avait en face de lui la religion et ses prétentions à exercer une autorité globale sur la société, face à quoi on pouvait construire un projet collectif d'émancipation, de libération, qui, en face de l'hétéronomie religieuse, avait une sorte de splendeur métaphysique qui a été l'âme de la politique dans le premier XXe siècle. Et puis, voilà, la cause de l'autonomie l'emporte. Le parti de l'hétéronomie se dissout à peu près dans les sociétés européennes complètement. On n'a même pas de vrais fondamentalistes qui rêveraient de restaurer quelque chose qui n'a même plus de sens dans la tête des acteurs. Et, en fait, la politique dépérit avec la disparition de son repoussoir. Je crois que nous... cette étape supplémentaire de la sortie de la religion, je crois qu'on peut dire que nous avons vécu depuis 30 ou 40 ans, on peut discuter de la chronologie, mais le fait lui-même ne fait... s'est traduit par une série de phénomènes qui font apparaître le poids que conservait une conception implicitement religieuse de la société et qui, par exemple, rendait évident de la saisir comme une totalité qu'on pouvait, à partir de là, dégager dans ses intérêts, structurer, conduire vers des directions relativement claires. Cette étape supplémentaire de la sortie de la religion s'est traduite de façon tout à fait spectaculaire, à l'intérieur du champ religieux et au-delà, par une vague d'individualisation, une vague d'émancipation des sociétés civiles dans la totalité de leurs composantes, d'identité, d'intérêt, de conviction, d'appartenance singulière, toutes, au fond, sur un même plan, et que tout le problème du politique aujourd'hui est de tenir ensemble. C'est très frappant. Il y a encore 30 ans, la politique, c'était ce qui nous conduit vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui parvient tant bien que mal à nous tenir ensemble. Et quand on nous tient ensemble, c'est déjà bien, alors il ne faut pas demander en plus qu'il y ait une direction commune qui puisse être représentée et proposée au suffrage des citoyens comme un horizon plausible de leur activité. On peut dire très simplement la traduction concrète de la sortie de la religion dans sa phase la plus récente, c'est l'évolution de nos sociétés vers une société politique de marché qui rend le concept même de démocratie très problématique. Parce que, effectivement, une société politique de marché, il ne s'agit pas d'une invasion de la politique par l'économie, mais de l'extension du modèle du marché économique à l'activité politique elle-même. Les gouvernants sont là pour faire respecter la règle du jeu. Chacun exprime ses intérêts particuliers dans tous les sens, et qui peuvent être d'un ordre tout à fait spirituel, d'ailleurs, mais sa particularité. Et le processus politique, eh bien, c'est la gouvernance, comme on le résume très couramment aujourd'hui, c'est-à-dire quoi ? L'agrégation automatique des préférences des uns et des autres sur un mode de préférence non conflictuel où le compromis est systématiquement préféré à l'affrontement dans l'univers post-antagoniste dans lequel nous venons d'entrer. En fait, nous, voilà. Eh bien, l'autonomie, c'est ça. C'est-à-dire rien d'exaltant, comme on pouvait le rêver à l'époque où l'affreuse autorité incarnée par la transcendance obligatoire le faisait rêver. C'est un monde incroyablement difficile à gérer. Et je crois que nous sommes à un moment très précis de l'histoire de la démocratie où elle arrive en face d'une certaine vérité d'elle-même. Il faut apprendre à gouverner l'autonomie. Et pour le moment, nous ne le savons pas. Et c'est bien pourquoi nous pouvons parler d'une crise de la démocratie dans un sens très profond, qui n'est pas la crise des mécanismes politiques, mais la crise de l'esprit de la démocratie et des modèles qu'elle peut se proposer quand aucune figure de l'ensemble n'est spontanément disponible. Et par conséquent, tous les repères politiques que nous avions, intérêt général, bien commun, ne signifient à peu près plus rien.
C'est-à-dire que le politique devenu incapable de penser la globalité, mine en quelque sorte les fondements de l'esprit démocratique. Mais est-ce que malgré tout, enfin je voudrais un tout petit peu tout de même plaider pour le politique global dans cette affaire, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister tout de même, peut-être à travers des prises de conscience de, d'autres formes de dépendance qui sont plus simplement celles de la dépendance par rapport à la loi hétéronome des religions qui ne fait plus, qui ne menace plus personne aujourd'hui. Est-ce que on n'est pas en train d'assister malgré tout à de nouveaux développements du sens de la responsabilité collective? Je pense par exemple à la prise de conscience écologique et à la nécessité de penser de façon globale, et là ça ne peut pas transiter uniquement à travers des réponses individuelles, de penser le devenir de la planète. Est-ce que par exemple on n'est pas là devant un terrain où finalement la question de l'autonomie qui peut aller jusque à la capacité de s'autodétruire, invite à reconsidérer les formes de la dépendance de l'humanité de façon générale envers un certain nombre, envers les ressources, envers les liens tissés, etc. Est-ce qu'on n'est pas malgré tout devant un moment où on est au bout de ce désenchantement du politique ?
Je le crois. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'autant il faut faire un constat sans phare de la situation dans laquelle on est, hein, et de cette espèce d'évidement de la substance des démocraties, autant ce serait une illusion de considérer que c'est le dernier mot de l'histoire et que voilà, après la fin de la religion, il y a la fin de la politique. La fin de tout. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais tout simplement, il y a un considérable effet de surprise parce que nous avions une certaine... Nous vivions sur un acquis qui se dérobe sous nos pieds. Nous sommes au fond du trou, pourrait-on dire trivialement. Mais nous sommes dans un processus d'apprentissage. Il faut reprendre à la base la problématique de la démocratie qui ne nous sera pas livrée avec ces acquis structurants sur lesquels nous nous reposions. C'est-à-dire qu'il va falloir construire délibérément ce qui nous était donné par une espèce de tradition sur laquelle nous ne nous interrogions pas. C'est un travail considérable, mais bien évidemment que toute une série de problèmes font signe aujourd'hui vers une recomposition du tissu institutionnel, parce que c'était ça les institutions en général, il n'y avait pas que l'institution religieuse, les institutions c'était une sorte d'esprit de la totalité incorporé dans un mécanisme qui fonctionnait de lui-même. Ben, plus rien ne fonctionne de lui-même. Donc il faut, si on veut une institution, il faut la constituer comme telle. C'est extrêmement difficile, mais ça n'est pas infaisable. Je ne fais pas du tout partie des gens, par exemple, qui pensent que cette dimension de globalité est irrévocablement perdue. Elle est perdue dans la forme que un long héritage religieux et politique lui a donné. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est à tout jamais perdue. Ça veut dire qu'elle est à reconstituer. C'est complètement différent. Un problème sur la préoccupation écologique, ça signifie... Oui, il y a bien une globalité quelque part. Comment pouvons-nous l'ignorer? Mais prenons un exemple qui n'est pas encore dans un autre registre. L'humanité, elle est totalité aussi dans le sens du temps. Nous avons un problème énorme sur les bras dont nous ne faisons que prendre conscience timidement. C'est la crise de l'éducation. Ah, là aussi, la transmission, c'était un mécanisme quasi automatique. Les générations antérieures passaient le relais aux générations postérieures. Alors certes, il y avait...
Ça crée un sème, enfin.
Oui, il y avait toujours des petites tensions, des crises, des difficultés, mais ça marchait. Mais ça, rien ne nous garantit. Aujourd'hui, on le voit bien, que ça fonctionne tout seul. Il faut repenser les conditions dans lesquelles ça peut se faire. Donc... C'est en ce sens-là que je parle de crise. Ça ne veut pas dire la crise, c'est pas la fin. C'est aussi la nécessité de reprendre autrement le fonctionnement de la démocratie et des sociétés humaines, au-delà de leurs mécanismes politiques, je pense, sur toute une série de domaines. D'ailleurs, l'écologie l'indique assez. C'est toute l'inscription dans le monde naturel qui est en cause. C'est pas simplement... ne pas jeter ses papiers sales en dehors des poubelles. Hein. Ça va un peu plus loin. Et je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut raisonner, celui d'une reconstruction qui est effectivement déjà en train de se faire.
L'écologie, c'est à l'échelle globale, mais l'Europe, c'est à l'échelle quand même peut-être plus moyenne, mais c'est le rêve quand même, ça représente un rêve très important pour ceux qui se trouvent en dehors de l'Europe, comme un rêve politique justement de notre manière de penser à vivre ensemble. Un peu un dépassement de l'idée de l'État-nation. Pourquoi cette idée de l'Europe ne répond pas à ce besoin de penser à la politique? Pourquoi ça ne répond pas à cette crise de la démocratie? Pourquoi ce désenchantement avec l'idée de l'Europe?
La réponse me paraît très simple. C'est que là aussi, on est parti sur des bases un peu évidentes, faciles, et qu'on est très en arrière de la main dans les propositions institutionnelles, les mécanismes qu'on peut proposer par rapport aux tâches d'aujourd'hui. D'ailleurs, où est le miracle qu'une construction qui s'étale sur 60 ans bientôt doive être repensée par rapport à des bases complètement différentes dans lesquelles elle a été définie? Entre le monde de la déclaration Schuman 1950 et celui où nous vivons aujourd'hui, il y a un petit décalage. L'Europe, c'était très beau, très simple, à l'époque où il s'agissait de ne plus se battre entre les Français, les Anglais, les Allemands et les Italiens. Bon, c'est très facile de s'entendre là-dessus, après qu'on a vécu dans deux guerres mondiales qui ont laissé une facture que tout le monde connaît. Et c'était la menace communiste. Deuxième paramètre qu'on oublie beaucoup aujourd'hui dans la genèse de l'Europe, mais qui me semble avoir joué un rôle sacrément déterminant. S'il y avait une sorte de précipitation à s'unir, c'est parce que très concrètement, il y avait une identité de l'Europe qui était fournie, donc, très évidente, en regard de ce que représentait l'au-delà du rideau de fer. On est aujourd'hui, je pense sur la nécessité de la reconstruction après les destructions de la guerre, on est dans un monde complètement différent. Et je crois que la construction politique de l'Europe n'a absolument pas suivi cette différence. On s'est contenté d'un élargissement mécanique à l'intérieur d'un cadre très peu renouvelé dans son inspiration, mais qui a perdu complètement ses objectifs initiaux sans en trouver d'autres. Il n'y a pas, en fait, c'est très facile de répondre à votre question. Là aussi. Et dans le contexte, en plus de ce qu'on a dit, avec toutes les énormes transformations sociales qui sont survenues entre-temps, transformations économiques, il faut repenser l'Europe si on veut la rendre attrayante pour les peuples. On ne peut pas la prendre telle qu'elle est. Elle exige d'être mise à la hauteur du monde nouveau dans lequel nous sommes plongés.
Comprendre cette crise de la démocratie politique et les transformations en cours, deux livres importants, même en 89, La révolution des droits de l'homme, et en 95, La révolution des pouvoirs, qui sont deux travaux d'historiens très précis, d'historiens précisément des débats constitutionnels révolutionnaires, mais qui prennent sens justement au regard de cette transformation de la politique contemporaine, puisque le premier porte sur cette question des droits de l'homme, et c'est bien un des grands, enfin, peut-être même le grand thème qui a émergé, c'est-à-dire de ces dernières décennies, les droits de l'homme devenant une réalité et les individus se revendiquant au quotidien des droits qu'on leur promet. Et l'autre question étant celle de la recherche par les différentes assemblées constitutionnelles révolutionnaires d'un éventuel troisième pouvoir qui ferait contrepoids, qui jouerait le rôle d'un garant institutionnel qui justement a manqué pendant cette période révolutionnaire française et qui là aussi fait écho dans les transformations contemporaines à la montée en puissance du rôle du juge ou d'un pouvoir externe aux institutions traditionnelles que sont le législatif et l'exécutif. Donc c'est deux travaux relativement précis, mais qui peut-être prennent davantage de sens rétrospectivement et qui aussi peuvent servir de point de départ pour une analyse historique de cette transformation.
La Révolution française a posé nos questions, mais elles ne sont pas celles qu'on croit. C'est au fond l'inspiration de ce travail. C'est en même temps un exercice, ça a été pour moi un exercice de mise au point, au fond, d'une sorte de méthode historique conciliant l'aspect structural, une vieille revendication des historiens autour de laquelle on a tourné, et l'aspect événementiel, la contingence. Il y a une, donc voilà, bon, ça c'est un problème un peu général. C'est un des corpus que de la Révolution française offre à cet égard, je crois, un matériau absolument unique et très, très convaincant. Mais c'est vrai que par ailleurs, on a... si on sort de nouveau d'un schéma marxiste, il y avait la féodalité en crise, c'est pas très clair, qui donne naissance au règne de la bourgeoisie. Si on ne se raisonne pas comme ça, qu'est-ce que c'est la Révolution française ? C'est évident qu'elle a des aspects sociaux que personne ne songe à nier, mais le fond du fond, c'est quoi ? C'est précisément, en fait, la politique hors de la religion. Et c'est quoi la politique hors de la religion ? C'est la politique qui propose un principe de légitimité alternatif au principe religieux. La France a une monarchie sacrée, qui en a beaucoup perdu dans sa sacralité, mais qui est dans le principe. Les droits de Dieu, au travers d'un prince qui incarne la volonté transcendante. La modernité, c'est tout simplement, en politique, la découverte d'un principe de légitimité alternatif. Et il n'y en a pas d'autre possible que les droits de l'homme. Dans l'histoire humaine, il y a une rigoureuse binarité. C'est ou l'organisation par un principe transcendant, ou l'organisation par un principe immanent, qui ne peut être que les droits de l'homme, comme pierre de touche de la légitimité. En fait, les solutions humaines à ce problème sont non très limitées. Et la Révolution française est un événement fascinant parce que, pour des raisons parfaitement contingentes, historiques, explicables, on va voir ce principe de légitimité alternatif jouer avec une radicalité sans égale, qui ne retrouvera plus avant, peut-être très longtemps. On est peut-être dans un moment où cette inspiration retrouve son sens sur des modalités complètement différentes, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'ancien régime à détruire. Et au fond, en 10 ans, tous les problèmes de la mise en place de ce principe de légitimité alternatif à la légitimité religieuse sont posés. Il y en a d'autres que celui, d'ailleurs, que ceux que j'ai envisagés dans ces deux livres. C'est les deux principaux. On en aurait d'autres si on regardait la Révolution française du point de vue du XIXe siècle et de la liquidation de l'Ancien Régime et de ce que, d'une certaine manière, la modernité incorpore d'Ancien Régime. C'est un autre problème encore très intéressant. On ne peut pas dire que nous sommes dans des sociétés où l'idée aristocratique a perdu tout sens. On ne peut pas dire que nous sommes dans des sociétés où l'idée monarchique a perdu tout sens. Donc, voilà, ça c'est un autre problème. Mais c'est d'une histoire de la sortie de la religion qu'il s'agit. Et c'est pour ça que la Révolution française, à mon sens, a exercé cette extraordinaire fascination sur les esprits au cours du XIXe siècle. Rétrospectivement, on a vu, là-dessus, François Furet nous a bien appris à distinguer les choses, on a vu la radicalité de la Révolution française dans la radicalité sociale, comme une espèce d'anticipation de la Révolution bolchevique. Mais non, la radicalité de la Révolution française est bien plus grande, parce qu'elle consistait à mettre en œuvre méthodiquement un principe radical de légitimité alternatif à la légitimité religieuse que toutes les sociétés humaines avaient connues jusqu'à présent. C'est une coupure qui n'est pas rien. Alors, et qui fait de ces 10 ans un moment expérimental sans équivalent dans l'histoire moderne.
Il n'y a pas 1000 solutions, disais-tu, pour organiser le vivre ensemble, où ce sont les droits de Dieu, si je puis dire, où ce sont les droits de l'homme. En même temps, dans ces mêmes années, tu publies un article dont l'intitulé est devenu fameux, « Les droits de l'homme ne sont pas une politique » en 1980. Que fait-on quand néanmoins ils deviennent une politique ? Thème qui donne son titre à un article que tu publies cette fois en 2000, « Quand les droits de l'homme deviennent une politique ».
les droits de l'homme sont un principe de légitimité. Ils ont une utilité irremplaçable dans ce rôle. Il s'agit non seulement... Par exemple, moi, je déteste l'expression « droit de l'homiste ». Il n'y a pas à critiquer les droits de l'homme. Nous n'avons que ça. La question, c'est l'extension qu'on leur donne. Le développement auquel nous avons assisté depuis les années 80, en effet, c'est l'idée que l'époque des grandes idéologies qui prédisaient le futur étant close, pour le meilleur, nous avions à la place une réserve qui était les droits de l'homme comme guide de l'action politique minimale et respectueuse au moins des libertés et des garanties que chaque individu mérite. Mais c'est faire utiliser les droits de l'homme comme une politique, c'est les faire sortir de leur rôle, qui est d'un autre ordre. Et c'est leur faire croire qu'on peut en tirer une compréhension de l'histoire se faisant, une compréhension de la société en train de se construire, une idée de l'avenir, une image de l'ensemble de la société, ce fameux bien commun, intérêt général, on ne sait plus comment l'appeler, qui se dérobe. Et c'est là où, en effet, je crois qu'on a assisté à... On est droit dans ce qui a été le principe moteur de la crise de la démocratie, qui repose sur une illusion de perspective quant aux possibilités qui sont celles des droits de l'homme. Ça oblige d'ailleurs à repenser toute la composition des sociétés contemporaines. Elles ne sont pas faites que de droits. Contrairement à ce qu'elles tendent spontanément à penser d'elles-mêmes, elles sont faites aussi d'une dimension sociale, historique, qui est incompressible et qui est à comprendre pour elles-mêmes, et d'une dimension politique proprement dite, avec laquelle il faut les articuler. La politique des droits de l'homme, comme tout le monde, je dirais, j'ai d'abord été séduit par cette idée. On était à la fin des années 70, c'était les grandes années du combat antitotalitaire, où pour la première fois cette thématique rencontrait un large écho. Et face à la politique qui avait conduit au totalitarisme, la politique idéologique, on avait une sorte d'alternative, les droits de l'homme. Il m'a semblé très vite qu'on allait au contraire mettre au centre de la politique un principe de dissolution. Un principe qui n'a rien de criminel. C'est son intérêt. Je préfère la politique des droits de l'homme à la politique totalitaire, je n'ai pas besoin de le dire. Mais c'est un principe politique qui conduit, justement, inévitablement, par essence, dans la logique qui est celle d'un fonctionnement juridique basé sur les droits des individus, à une perte de la capacité d'autogouvernement des collectivités, qui me semble s'être amplement vérifié depuis lors. Il me semble que c'était lisible très tôt.
Cette question du totalitarisme, on l'a abordée à plusieurs reprises, le mot a été prononcé à plusieurs reprises également, ou évoqué. L'une de tes thèses est précisément que cet évidement du politique est aussi ce qui, selon toute vraisemblance, met nos sociétés à l'abri du risque totalitaire. Est-ce que je t'ai bien compris ?
Tout à fait. Je crois que les totalitarismes ont correspondu à une phase historique assez bien déterminée, qui va de pair avec un moment de l'histoire européenne. Je passe sur les totalitarismes asiatiques, en particulier la Chine, consécutif, la Corée, le Vietnam, le Cambodge, qui me semble relever d'une analyse un peu différente. Mais les totalitarismes qu'on a connus dans l'Europe du premier XXe siècle, disons, et avec le moment d'incandescence stalinien, qui n'est évidemment pas l'univers soviétique d'après la mort de Staline, tout ça mérite d'être historisé, je crois que ça a correspondu à une phase historique que je propose de caractériser sous l'étiquette précisément de religion séculière un produit tout à fait particulier de la sortie de la religion, d'un moment bien déterminé, où tout simplement on croit pouvoir faire l'équivalent du monde religieux par des moyens séculiers, par des moyens qui appartiennent à la modernité démocratique. C'est ça le mot. Il y a un âge des totalitarismes en ce sens-là, hein, qui est assez repérable, et je crois qu'on a de bons arguments pour dire que nous en sommes sortis. C'est la face positive, en effet, de ce que, par ailleurs, nous percevons de manière négative comme l'affaissement des démocraties. Au moins, nous protège-t-il de la perte de cette dimension d'ensemble dont nous parlions et la capacité de gouvernement vers l'avenir de nos sociétés a au moins l'intérêt de nous épargner les guides suprêmes qui savent pour nous, par l'intermédiaire du parti, où il s'agit, dans quelle direction peut s'opérer le salut de l'espèce humaine. Ça, je crois que nous en sommes en Europe. Hein, en Europe. Une sortie, et je précise, la sortie de l'âge du totalitarisme ne signifie pas que désormais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'autres formes de barbarie politique sont bien sûr possibles, mais ce ne sera pas les mêmes. C'est tout. Ce n'est pas la fin du mal en politique, la fin de l'âge totalitaire.
Malgré tout, on pourrait prendre argument de ce que, par exemple, dans la sphère religieuse, on observe que l'extrême individualisation et le coût psychique de cette extrême individualisation rapportée à l'accomplissement de soi qui fait que chaque individu peut construire son petit système en fonction de ses aspirations, de ses dispositions, de ses intérêts, etc., peut aussi déboucher par des aspirations très fortes au recours à des solutions clés en main. Et donc, on observe par exemple que le développement des sectes, par exemple, qui sont extrêmement totalisantes, n'est pas une sorte de contradiction du processus de l'individualisation, il en est le pur produit. Et donc, ça supposerait que sur le terrain du politique, cette logique, disons, du recours face à l'épuisement qui procède au fond de la fin d'un idéal commun, n'est pas susceptible de développer le même type d'effet. Je pousse un peu la question posée par François.
Le phénomène des sectes est à cet égard très intéressant. Je suis d'accord sur l'analyse. C'est l'humanité étant contradictoire, ayant des besoins entre lesquels elle doit composer, une extrême individualisation conduit à un extrême désir de renoncer à l'individualité. Enfin, un cadre à l'intérieur duquel on n'a rien à choisir, tout est prévu pour vous, l'obéissance absolue sur toute la vie.
Clé en main.
L'oubli de soi. C'est une passion humaine avec laquelle nous n'avons pas fini. Elle s'est investie dans l'organisation politique. Je crois qu'elle ne peut plus y trouver son lieu, précisément. Ce qui est très frappant dans la forme secte, c'est au fond quand même, si je puis dire, des formes de proximité groupale, d'intensité fusionnelle à une échelle limitée, quand bien même on a affaire à des multinationales sectaires. C'est le groupement local qui compte dans la vie de secte. Alors que ce qu'il y avait d'extraordinaire dans le projet totalitaire, c'était la capacité d'englobement et la capacité d'organiser des systèmes institutionnels très élaborés résonnant à l'échelle des masses et de l'anonymat des personnes. Dans la secte, la demande individuelle est tellement forte que ce sont des individus qui la composent. Ce n'est pas une masse, ce n'est pas à l'échelle d'une société globale qu'un phénomène de ce genre peut se produire. Mais beaucoup de petites sectes peuvent faire des gros problèmes à l'échelle de la société globale. Ça, c'est de le genre de... Quand je parlais de barbarie qui n'est nullement derrière nous, on peut de ce côté-là avoir de très grosses et de très mauvaises surprises.
La fin de la menace totalitaire ne nous garantit pas contre ce type de barbarie, non ?
On peut redouter, au contraire, tout ce qui sera choc en retour de l'extrême individualisation, qui effectivement alimente la contre-passion de la disparition de soi. Ce phénomène tout à fait contemporain de l'attentat suicide, qui n'est d'ailleurs pas partie de l'islam, puisque c'est les tigres tamouls qui ont inventé ce procédé original, mais très révélateur de ce point de vue. C'est une forme d'engagement politique très significative. On pouvait d'ailleurs, au départ, on sait bien, les professionnels de la chose se sont dit, mais c'est limité, c'est très particulier. Non, ça a une sorte d'exemplarité qui tient à ça, l'autodestruction liée à l'individualisation. Mais une des formes de l'extrême affirmation individuelle de soi, c'est la souveraineté sur sa vie et la capacité de la mettre au service de n'importe quelle cause. Donc, de tous ces phénomènes-là, nous ne faisons que constater les prémices. Ce qui veut pas dire... Mais ça ne sera pas quelque chose du type totalitaire, qui me semble... c'est à Paris.
Le totalitarisme, on passe à la barbarie. Et je pense que tu as proposé tout à l'heure de repenser l'Europe, je reviens, et justement le couple, la barbarie et la civilisation revient aussi un peu dans notre manière de voir les choses, et surtout dans la condition politique. Justement, tu proposes de réarticuler les nations et l'idée de la civilisation d'une nouvelle manière pour relancer l'idée de l'Europe. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette approche, parce que l'idée de la civilisation, qui n'est pas du tout une nouvelle idée, justement, c'est ce débat qui a travaillé toutes les sociétés qui étaient engagées dans la modernisation, qui était synonyme de l'occidentalisation à l'époque, essayer de distinguer la culture de la civilisation, pas seulement en Allemagne, mais aussi en Turquie, au Japon, dans tous les pays du Maghreb. Donc il y avait ce souci de distinguer ce qui était proprement culturel, particulier, de ce qui était universel. Je me demande si aujourd'hui, à part l'idée de la mission civilisatrice d'un côté et le relativisme complet, il n'y a pas dans l'emploi de la notion de la civilisation, il n'y a pas cette idée, au contraire, un peu de la division du particularisme culturel, voire même religieux, dans la définition même de l'Europe aujourd'hui.
Je crois qu'on peut surtout commencer toujours par donner un contenu positif aux concepts et aux notions qu'on utilise. Ils ont eu certains usages qu'on peut tout à fait critiquer. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils se réduisent à cet usage ? Jamais ! On peut revisiter ces concepts et leur donner un contenu positif. Je pense qu'on peut donner un contenu très précis et très rigoureux à cette notion de civilisation qui n'exclut personne, précisément, alors qu'elle a été critiquée pour le départ qu'elle introduisait entre les barbares et les civilisés. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. C'est un emploi circonstanciel qui n'épuise pas le sujet. Et pour en effet, la question pour l'Europe est double. C'est de donner un contenu à cette idée d'Europe dont on ne sait pas quelle elle est, mais dans un contexte où Europe veut dire très concrètement quelque chose, c'est la zone du monde où l'économie a pris le pouvoir. C'est ça l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire le lieu où, précisément parce que c'est un projet de dépassement des nations, l'économie a totalement cessé d'être enchâssée dans des structures politiques et échappe à la capacité de gouvernement des sociétés. Donc, c'est très important, en face de ce contenu de fait, de redonner un contenu de droit et un contenu philosophique, un esprit à l'Europe, qui permette d'ailleurs d'inclure l'économie. Parce qu'au fond, c'est de la chose du monde que nous ne savons le moins conceptualiser. Nous voyons bien qu'elle joue un rôle important dans la vie des sociétés, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut mépriser au titre simplement d'un moyen accessoire, ce n'est pas la subsistance, mais en même temps dont on ne sait pas quelle place lui faire. Je crois que le cœur de la notion de civilisation, c'est la raison dans un sens opératoire, qui n'est précisément pas un sens substantiel qui exclut ceux qui ne sont pas raisonnables, parce que tout le monde est rationnel dans le monde où nous sommes. Toutes les sociétés qui rentrent dans le capitalisme aujourd'hui, dans la société de marché, dans la société industrielle, la Chine, l'Inde, la Turquie, sont des sociétés qui, quelles que soient les références culturelles de leurs acteurs et qui n'ont aucun motif de renoncer à leur référence culturelle, pratiquent un certain type de rationalité civilisationnelle qui crée du commun. Donc, le problème de l'Europe, c'est d'avoir une idée d'elle-même, de son histoire et de son actualité, mais aussi une idée qui place le projet européen dans le monde. Si on dépasse les nations, très bien, pour refaire une nation européenne qui sera aussi chauvine, étroite, prétentieuse, aspirant à la domination que celle qu'on a connue et qu'on connaît de par le monde, où est le progrès? Il faut un contenu politique. Ou alors, il y a une alternative au contenu politique. C'est le contenu économique. C'est le marché. Bon, c'est pas une solution non plus. Donc il faut, c'est extrêmement important de trouver quelque chose qui soit le commun de l'Europe, mais le commun qui l'inscrit dans le monde et qui lui donne qui donne du sens à ses rapports avec les autres aires de civilisation vis-à-vis desquelles elle a. Et un concept qui lui permette de marquer qu'elle a totalement renoncé à l'impérialisme, y compris culturel. Elle n'a pas un modèle à délivrer aux autres ou à leur imposer, de leçons à leur donner. Et je crois que le concept de civilisation, dans sa bonne définition, répond à toutes ces exigences en permettant précisément d'enregistrer ce phénomène de convergence mondiale, de fait, hein, qui n'est pas qu'un phénomène de convergence économique, mais qui est un vrai phénomène où l'économie est prise dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est le rationnel, mais le rationnel dans toute l'étendue de ses acceptions, y compris en termes de droit, de rapport entre les personnes, de statut des personnes, et qui, en même temps, laisse penser qu'en effet, il y aura des modernités multiples, et non pas une modernité occidentale, simplement, et qu'il y aura, à l'intérieur d'une civilisation planétaire, où on peut faire une... où il y a une convergence effective des communautés politiques, quelles qu'elles soient, on a une diversité de manières de se rapporter à cette civilisation qui est préservée. Parce que là aussi, si l'occidentalisation du monde, ça consiste tout simplement, pour devenir un peu plus riche ou un peu moins pauvre, à ratiboiser tout ce qui existe d'héritage historique, le progrès paraît modeste. Donc la tâche est très complexe et c'est autour de cela que je crois que la notion de civilisation peut effectivement nous rendre ce service pour peu qu'on la repense convenablement.
Donc pas à l'échelle européenne, à l'échelle...
universelle. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça la question qui nous est posée. C'est la question de l'universel. Est-ce que... ou bien nous sommes l'universel et les autres se taisent ou nous imitent, si on est gentil, s'ils sont gentils avec nous, on leur permettra de faire comme nous, en renonçant à ce qu'ils sont. Ce n'est pas probable. Ou bien nous sommes dans le relativisme total, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a... Le commun, c'est simplement ce sur quoi on s'entend par recoupement, hein, par une sorte d'arbitrage. Non. Je crois qu'il y a de l'universel à l'œuvre dans la modernité. Mais un universel qui n'est pas impérial et qui n'est pas totalement aveugle à cette pluralité des héritages historiques à partir duquel se constituera le monde en train de naître.
C'est l'idéal des Lumières, d'une certaine façon.
Je crains d'être un homme des Lumières attardé.
L'idéal des Lumières avec l'historicité réintroduite.
Oui. L'historicité est tout ce que les sciences de l'homme nous ont apprises depuis deux siècles, qui a formidablement élargi l'image étroite de l'humanité que pouvaient se faire les Lumières. Mais honnêtement, je n'en vois pas de meilleur. Cet idéal des Lumières me paraît le seul qui peut valablement continuer de nous guider, sauf à le faire paresseusement et à se contenter de gérer un acquis. Non, il faut l'actualiser, lui redonner un sens, en revoir toutes les notions, et celle de civilisation est un de ses legs majeurs.